Dans cette deuxième heure, on va vous parler du fait que vous préférez lire les informations sur Facebook plutôt que de les lire, par exemple, sur le site d'une agence de presse ou d'un réseau comme le réseau Cogeco. C'est un sondage de Léger qui nous dit ça. En fait, si je voulais résumer, vous préférez vous informer sur Facebook plutôt qu'auprès d'organes d'information en bonne et due forme. Bien entendu, on aura Loïc qui va venir nous parler de l'actualité internationale et ça brasse vraiment beaucoup, là, notamment avec l'Arabie saoudite. Et Paul Aude aussi va venir faire son petit tour comme à la fin de chaque deuxième heure. Mais d'abord, on va vous parler du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Ils sont dans le trouble, c'est ce que nous dit Philippe Tessera-Lessard dans la presse de ce matin. Le Centre de prévention de la radicalisation qui serait en péril, qui vivrait des difficultés financières importantes. Et pour savoir un petit peu à quoi ça sert, ce Centre de prévention de la radicalisation, puis est-ce que ça a été utile, puis est-ce que c'est justifié qu'on s'en inquiète, qu'on s'inquiète du fait qu'il pourrait se retrouver à court d'argent, on va aller rejoindre, sans plus tarder, Fabrice de Pierrebourg, qui est journaliste d'enquête, qui est auteur aussi de plusieurs livres spécialisés en terrorisme. Bonjour Fabrice.
Salut Bernard.
Le Centre de prévention de la radicalisation, est-ce que ça a été finalement une bonne ou une mauvaise chose? Parce que ça a été créé, rappelons-le, en 2015.
Moi, je pense que ça a été une bonne chose. Faut se rappeler dans quelles conditions il a été créé, ce centre-là. C'était, vous en souvenez certainement, au début de l'année 2015. Au cours de l'année 2015, on a eu des épisodes vraiment problématiques, à la fois de jeunes du Collège de Maisonneuve, entre autres, qui sont partis en Syrie, plus une dizaine d'autres qui ont voulu partir, plus encore deux autres à travers la province. Donc, il y avait comme une urgence à l'époque d'essayer de régler ce problème, de voir qu'est-ce qui se passait.
Pourquoi ces jeunes s'étaient radicalisés?
C'était radicalisé?
Parce qu'ils s'en allaient combattre pour le djihad là-bas.
Pour l'État islamique, voilà. Oui, tout à fait. Bon, on sait qu'il y en a une ou deux qui sont actuellement incarcérés en Syrie. Donc, et le Québec n'échappait pas à ce problème qui a été encore plus dramatique, on l'a vu en Europe, avec toute cette série d'attentats qui a eu lieu, entre autres, en France, en Belgique, etc. Mmh. Donc, au Québec, les pouvoirs publics se sont dit, bon, est-ce qu'on attend finalement un drame pour intervenir ou on essaye d'agir en amont? On essaye de désamorcer, sans mauvais jeu de mots, des cas qui pourraient être problématiques. Mmh. Et finalement, l'idée, c'était de créer une structure qui agirait avant d'en arriver à l'étape judiciaire. Voilà. Parce qu'on s'entend qu'on a le droit d'avoir un discours radical au Canada. C'est autorisé, c'est moins autorisé en Europe. Mais c'était évidemment, ça devenait important, urgent, d'essayer de détecter des cas comme ça, de collecter de l'information et de faire en sorte qu'on évite que ces jeunes-là arrivent dans la sphère judiciaire. C'est-à-dire qu'une fois que c'est trop tard, une fois où le complot est commencé, ou malheureusement qu'un attentat a eu lieu.
Donc, quand tu dis le discours radical est permis en vertu de la Charte des droits, en même temps, il y a une loi qui dit, si tu veux aller te joindre à un groupe comme le groupe de l'État islamique, tu peux être arrêté pour ça.
Oui, mais ce que je veux dire, on a le droit, en revanche, de critiquer, même virulemment, l'État, le Canada. On a le droit d'avoir des opinions, je dirais, radicales.
D'accord.
Le discours radical n'est pas interdit. Si vous appelez à la violence, ça, c'est autre chose. Si vous complotez à des fins terroristes, ça, c'est autre chose. Le code criminel est là pour régler ces problèmes-là. Il y a les discours haineux aussi. Là, des fois, souvent, les gens comprennent pas trop, mais donc, ce centre-là était, mais c'est sûr qu'au départ, et c'est un peu ce qu'on voit dans plusieurs pays européens, c'était très axé sur le djihadisme, le phénomène djihadiste. Puis on voit qu'au très vite, finalement, puis j'ai regardé là dans leur rapport annuel, je me suis replongé là-dessus ce matin, on voit que, oui, la radicalisation religieuse, entre autres djihadistes, fait partie des cas qui sont traités en majorité chez eux, mais on voit une montée en puissance, puis ça on le constate aussi ici, des cas d'extrême droite, l'extrême gauche aussi, la cause unique.
Donc finalement, c'est quoi la cause unique?
Bah, ça peut être les gens qui se battent pour l'environnement ou
oui, l'extrême gauche. Il y a une extrême gauche. Très...
Ou même ça peut être aussi. Il y en a qui le craignent. On a vu en Europe là, il y a eu quelques jours des boucheries qui ont été attaquées par des véganes extrémistes. Ça peut faire rire comme ça, mais en tout cas.
Non, mais c'est pas drôle quand c'est non. Quand c'est toi.
Bah, quand on en arrive à la violence, c'est ça. Donc finalement, le centre, il sert à la fois, il reçoit les appels de l'extérieur, en général les familles ou des proches, et il les évalue. évalue. Et en fonction de l'évaluation qui est faite de ces cas-là, soit il les traite à l'interne, puis j'avais fait un long sujet là-dessus au micro de Paul Arcand quand ce centre avait été créé, soit dans les cas les plus problématiques, s'ils se rendent compte qu'il y a une menace à la sécurité publique, ils vont transférer ces cas-là à la police, à la GRC, entre autres, qui est chargée du terrorisme. Et puis dans leur rapport, ils disent que l'année dernière, en 2017, sur 349 dossiers qu'ils ont ouverts, il y en a 24 qui ont été transmis à la police, ce qui est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'ils considéraient qu'il y avait une menace à l'ordre public et que c'était plus du ressort, finalement. On sort du domaine de la prévention, du socio-communautaire, puis on rentre dans l'aspect, on dirait, plus répressif. Quoi.
OK, mais donc 24 à la police, donc ça veut dire 320 quelques dossiers qu'ils ont décidé de garder à l'interne. Et à ce moment-là, comment ils s'y prennent? Est-ce que, mettons, c'est le parent qui a appelé, il a dit « Mon jeune a des idées un peu brutales, je trouve. Il a l'air tenté par la violence. J'aimerais ça que vous m'aidiez. » Ils font quoi après? Ils prennent rendez-vous avec le jeune à la maison, en présence des parents?
Je travaille pas au centre, mais de ce que j'avais su à l'époque, puis j'avais posé la question plusieurs fois, de ce que je comprends, ils ont une grille d'évaluation. C'est quelque chose qui existe dans beaucoup d'organismes, puis même dans les services de police, c'est-à-dire qu'il y a une grille, et puis on essaye d'établir le niveau de dangerosité puis de menace que l'individu peut représenter.
Mais le jeune n'est pas obligé de les rencontrer.
Non, c'est sur une base volontaire, c'est sûr.
Ouais.
Mais ce que je veux dire, et en fonction de ça, c'est là où ils vont décider s'ils font une approche pas thérapeutique, parce que je cherche le mot.
Collaborative,
mais avec des intervenants sociaux, des travailleurs sociaux, des psychologues, etc.
La méthode douce.
Et puis, soit, si on se rend compte que c'est trop grave, à ce moment-là, on va le remettre dans les mains de la police. Et c'est là le problème, je pense, parce que là, ce que disait ce matin le collègue Philippe Tessera-Lessard dans la presse, c'est qu'il y a des tensions à la fois avec la ville de Montréal, qui retient de l'argent. Il y a deux bailleurs de fonds de ce centre-là, là, c'est la ville de Montréal et le gouvernement à travers le ministère de la Sécurité publique. Donc il y a des problèmes avec la ville de Montréal, puis aussi des problèmes avec le ministère, puis ce qu'on laisse sous-entendre, puis moi j'avais déjà entendu ça plusieurs fois depuis le début, c'est qu'il y a des grosses tensions avec les corps policiers. Parce que certains parmi la police considèrent que c'est un risque qu'on prend, et que finalement le centre
garde pour lui des informations
qui devraient
se retrouver plutôt chez les policiers,
peut-être.
Parce que ça pourrait poser les informations en question.
Du renseignement qui est
ça.
Intéressant.
C'est ça.
Et puis et à l'époque, j'ai retrouvé mes notes quand j'avais fait ce sujet-là ici, et le responsable du centre, le directeur, M. Deparès Ocompa, m'avait dit qu'il était au courant de ces récriminations de la police. Il dit « Je sais très bien que la police aimerait mettre la main sur tout le renseignement brut que je détiens, mais je ne suis pas une succursale de la police. » Et c'est là tout le nœud de l'affaire, parce que ce centre-là, c'est un des rares en Occident qui fonctionne indépendamment de la police. Pourquoi? Puis ça se comprend. Moi aussi, j'étais un peu critique au départ de cette façon de faire.
Mais c'est ça, j'allais te dire, toi, là, t'étais pas convaincu au début, Fabrice de Pierrebeau, que c'était une bonne idée,
j'assume,
ce centre-là.
J'assume.
Et avec le recul, tu penses qu'ils ont plutôt bien fait?
Je trouve qu'ils ont... c'est toujours pareil, il n'y a jamais de solution idéale dans la vie, là. C'est jamais ni blanc ni noir, mais ce que je comprenais à l'époque, c'est qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur, effectivement. Ils avaient leur propre grille d'évaluation, puis si jamais... La question que tout le monde se posait, c'est « Oui, mais s'ils en échappent un, s'ils pensent que ce cas-là, finalement, ne relève pas de la police, puis il peut être traité, puis que la personne fait semblant, puis qu'au final, se retrouve avec un attentat, il se retrouverait dans de beaux draps. » Mais ça peut arriver, finalement, dans une structure policière. Et puis,
j'allais dire, ça peut arriver avec n'importe lequel service
justice,
de renseignement.
Puis la justice. Le renseignement, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'attentats en Occident, où à chaque fois, on a dit « Ah, il était connu.
Il était fiché. »
Il y en a même un, celui qui a égorgé le prêtre en Normandie, en France. Ouais. Il avait un bracelet à la cheville qu'on lui avait mis pour le suivre. Ouais. Alors, et puis l'idée, c'était derrière tout ça, puis effectivement, je crois que c'est une bonne idée, c'est que si vous êtes trop typé police ou renseignement, il y a beaucoup de gens qui vous appelleront pas. Il y a beaucoup de familles qui viennent de pays pour lesquels la police puis le renseignement, c'est synonyme d'arrestation arbitraire, de torture, de dérapage. Puis vous avez pas envie, vous dites « Oh mon Dieu, je vais parler de mon fils, mais peut-être qu'ils vont l'arrêter tout de suite puis qu'ils vont le mettre en prison puis je le verrai plus jamais. » Donc l'idée, c'est un peu ça. Et je trouve que finalement, c'est pas plus mal. Parce qu'on voit, à l'opposé, en Europe, il y a une structure en France, par exemple, qui est très pris avec ce problème de radicalisation violente, ça s'appelle Stop Jihadisme. Un, ils sont opérés par des policiers à la base. Deux, ils sont uniquement typés radicalisation djihadiste. C'est-à-dire qu'ils évacuent complètement les autres menaces qui peuvent aussi créer du trouble. Puis on l'a vu à Québec. Hein, je veux dire, un individu qui rentre dans une mosquée qui tue 6 personnes. Peut-être que si sa famille, à l'époque, avait téléphoné, on ne sait pas, on ne peut pas refaire l'histoire, là, mais...
Donc, peut-être c'est pour qu'on ça aurait pu, peut-être qu'on aurait pu prévenir. Ouais. C'est ce que tu dis.
Alors, puis en plus, ils font de la recherche. C'est ça qui est intéressant aussi. Puis moi, je fais souvent, de par mon travail, je vais souvent fouiller sur leur site. Ils font des rapports qui sont intéressants parce que il y a eu beaucoup dans ces années-là, effectivement, 2015, en Occident, il y a beaucoup de gens qui sont improvisés, lutte à la radicalisation. Parce que c'était payant, hein. Il y a eu beaucoup de chercheurs spontanés qui ont voulu prendre la manne. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde donnait de l'argent partout, pas seulement au Québec. Il fallait
comprendre. Oui.
Il fallait comprendre, puis il fallait endiguer ce phénomène. Alors, il y a eu beaucoup d'opportunistes, mais je pense qu'ils font un travail qui est intéressant. On n'est pas forcé d'être d'accord toujours avec eux, mais il y a un travail de recherche qui se fait. Puis c'est ça, je trouve, qui est quand même unique avec ce centre, c'est finalement ces trois volets, intervention, recherche, puis prévention, quoi.
Ouais.
Mais donc, ils ont des comptes à rendre comme tout le monde, c'est sûr. Mais je trouve ça dommage que ce centre ferme pour un problème, finalement. Il y a beaucoup, à mon avis, de problèmes d'égo à droite, à gauche, de rivalité, de jalousie. Peut-être que comme ça a été créé par du temps de l'administration Coderre, peut-être que la ville dit... Oh,
c'est une patente à Coderre.
C'est une patente, on pense à la Formule 1 et compagnie.
Ouais,
là.
Ouais.
Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Mais,
voilà. L'autre chose qui est dite dans le papier de Lessard, c'est le fait que... il y a des policiers, enfin, lui dit qu'il a trois sources à l'effet que l'une des causes des tensions avec les policiers, c'est l'embauche de Sabrine German et de El-Mehdi Jamali, les deux jeunes qui étaient en voie de partir pour la Syrie, pour aller combattre pour l'État islamique.
Mais
finalement,
ils ont été acquittés.
Ils ont été innocentés pour l'essentiel. Il y avait quand même un chef d'accusation.
Ouais, mais qui est tombé. Ouais.
Bon, alors est-ce que tu crois que d'aller chercher des jeunes comme German puis Jamali qui est en voie de radicalisation puis de les intégrer dans un centre comme ça pour aider à parler à d'autres jeunes qui pourraient être tentés de suivre le même chemin, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée?
Je pense que c'était une bonne idée. Je pense que c'était une bonne idée parce que
ils sont capables de parler aux jeunes?
Probablement. C'est toujours pareil, si on amène un professeur là ou un vieux chercheur, il y en a qui vont dire ah, encore un vieux con là qui essaye de nous raconter ses histoires. Au même titre qu'ils embauchent, qu'ils font travailler Maxime Fizet, qui est un ancien militant d'extrême droite.
Oui, un ancien skinhead.
Skinhead. Donc lui aussi, il est plus à même de parler de ce phénomène-là, peut-être plus crédible. Mais je sais qu'effectivement, ça a paru bizarre sur le moment, ça a pu faire grincer des dents. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi ils sont partis du centre. Mm. Mais je trouve que c'est intéressant justement d'avoir toute une palette qui vient de différents horizons pour essayer de monter des programmes pour être les plus pertinents possibles et les plus efficaces possibles.
Dernière question, Fabrice de Pierrebourg. La radicalisation, est-ce qu'elle est à la hausse? Est-ce que c'est stable? Est-ce qu'elle est à la baisse? Où est-ce qu'on en est là? Quand on regarde la forêt, là, quand on prend un peu de recul.
Ce qu'on voit, puis on l'a vu, c'est la radicalisation des extrêmes politiques est à la hausse. Elle est plus visible. La radicalisation d'extrême droite est plus visible, on le voit. Les réseaux sociaux font en sorte que leur discours passe plus facilement et moins marginal. Ça a toujours existé, l'extrême droite, les groupes d'extrême droite, y compris ici. Là, on voit qu'ils sont vraiment à la hausse. Il y a un discours qui se libère, extrême gauche aussi, parce que finalement tous ces extrêmes-là se nourrissent. Et puis moi je ferai attention au Québec à la radicalisation entre guillemets djihadiste, parce que même si une des conditions principales qui a fait en sorte que des jeunes sont partis à l'époque, c'était la création du groupe armé État islamique, puis son emprise sur un vaste territoire, puis le rêve que ça a suscité chez ces jeunes, il y a des conditions qui vont revenir, entre autres on va revenir au discours identitaire. Tout ce qui est valeur entre guillemets que vous connaissez bien Bernard
bien sûr.
Puis il y a toujours certains individus qui sont toujours là et qui attendent que ça pour ça va leur donner du carburant à nouveau pour ce discours. Et puis je dirais, ça a l'air un peu bizarre ma phrase, c'est pas parce qu'il se passe rien qu'il se passe rien. Moi je me méfie toujours des périodes de calme apparent.
Ouais, l'eau qui dort,
c'est ça,
toujours attention,
hein. Ouais.
Fabrice de Pierrebourg, journaliste d'enquête, auteur spécialisé en terrorisme. Merci beaucoup.
Merci, Bernard.
On s'arrête dans un instant. Puis je vais vous demander ce que vous en pensez. Je vais vous demander votre opinion. Est-ce que c'est vrai, comme le dit un sondage léger, que vous préférez maintenant vous informer sur Facebook plutôt que vous informer auprès de Cogeco, auprès de la presse, auprès de Radio-Canada, auprès du Devoir, peu importe, dans un instant.